Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur, afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur.
Merci Mathieu pour ces paroles d'accueil, merci à Christelle pour la lecture. Merci à vous d'être là. C'était un dimanche du mois de janvier, il y a 9 ans, qu'on a commencé la RDS. Et je me réjouis de voir cette assemblée en bonne santé, en tout cas à vue de vos visages magnifiques et des personnes qui sont ici. Je vous apporte bien sûr les salutations fraternelles de l'église à Rue des Ternes, même si elle n'est plus Rue des Ternes le matin pour l'instant, mais le soir à 19h, c'est bien Rue des Ternes. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse ici et sachez qu'on a vraiment plaisir à prier et être partenaire pour l'Évangile avec vous dans le 17e, vous ici dans le 7e. Je vous invite à garder la page 1286 ouverte, 1 Corinthiens chapitre 1. Nous aborderons ce texte dans quelques instants. Mais avant de parler vraiment du texte, et c'est en lui, pas on lui, il y a une petite coquille qui s'est glissée là, c'est fou, en lui on a tout. avant de parler trop du texte, j'aimerais vous parler d'un grand film, Rocky, sorti il y a à peu près 40 ans, donc c'est un film qui a mon âge, hein, c'est déjà super. Sylvester Stallone joue un boxeur, c'est pas un scoop, hein. Et dans ce film, ce boxeur doit préparer un match contre un autre boxeur bien plus fort, plus impressionnant, qui fait peur, etc. J'ai appris récemment que c'est Stallone qui était le scénariste, et pas juste l'acteur principal. Et donc, en tant que boxeur, il s'entraîne encore, il fait tout pour se préparer. Il veut donner de son mieux. Il donc se donne à fond dans son entraînement. Et pourquoi ? Pourquoi passer ses heures à courir, à travailler ? Pour pouvoir se dire, s'il tient les 15 rounds, comme on dit en boxe, pour pouvoir se dire qu'il est vraiment quelqu'un, pour se prouver. Comme il le dit lui-même dans le film, « Alors je saurai que je ne suis pas un vaurien. Alors je saurai que je ne suis pas un loser. » En anglais, ça donne « Then I'll know I'm not a bum ». Ça jette un peu plus, hein, mais bon. « Then I'll know I'm not a bum ». Je ne suis pas un loser. Le film a eu un succès remarquable. 3 Oscars, des millions de bénéfices. Et dans un sens, Rocky nous parle de la condition humaine. Est-ce que je vaux quelque chose ? Suis-je quelqu'un finalement ? Voilà le murmure insistant du cœur humain. L'être humain cherche une valeur, un sens, une importance, une sécurité profonde, ici et là. Peut-être c'est auprès d'une réussite professionnelle, peut-être c'est dans une sorte de réussite familiale ou de vie de couple parfaite, entre guillemets. Et ça, et cela depuis longtemps. Au XIXe siècle, Alexis de Tocqueville était donc aristocrate français. Il est parti aux US pour voir ce qui se passait en démocratie, parce qu'en France, ce n'était pas le cas. Et dans son célèbre livre « De la démocratie en Amérique », il note combien les Américains étaient convaincus que la prospérité ferait leur bonheur. Mais un tel espoir était une illusion, soutient Tocqueville. Et je cite « Les joies incomplètes de ce monde ne suffiront jamais au cœur de l'homme. Les joies incomplètes de ce monde ne suffiront jamais au cœur de l'homme. » Il parle d'une, et je cite encore, « mélancolie singulière que les habitants des contrées démocratiques font souvent voir au sein de leur abondance. » Au sein de leur abondance, il y a cette mélancolie. Comme dit le pasteur Tim Keller à New York, cette mélancolie est le fruit amer de l'idolâtrie qui déçoit toujours. Les faux dieux ne donnent jamais ce qu'ils promettent de donner. Alors, y a-t-il une solution pour le cœur humain ? Pour répondre à ce besoin enfoui, parfois caché, ce besoin de valeur, de sens, d'amour. Et si la solution était peut-être inattendue, de manière surprenante, par quelque chose de méprisable, il y a réellement une solution. Un jour, il y avait un rabbin itinérant. Il était entouré d'une bande de disciples peu éduqués, et lorsqu'il était encore bien jeune, il a été exécuté. C'est comme ça qu'on va répondre aux besoins du cœur humain. Et pourtant, 2000 ans plus tard, c'est notre affirmation. La citation de Tocqueville. Ta-ta-da. C'est fou. En lui, on a tout. Dans sa folie divine, Dieu a fait de Jésus notre sagesse, notre justice, notre sainteté, notre libération. Il est tout pour nous. On va voir ça en deux parties. C'est fou. Et puis, en lui, on a tout. On va commencer avec la folie divine. C'est fou. C'est une logique bizarre. Hein? Prendre ce qui est fou pour confondre les sages, prendre ce qui est rien pour réduire à néant les choses qui sont. Paul dit aux Corinthiens, il y a peu de personnes impressionnantes parmi vous. Il n'y a pas ni beaucoup de sages, selon les critères humains, verset 26, ni beaucoup de puissants, beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les choses sages. Aujourd'hui, on pourrait dire, pourquoi y a-t-il si peu de chrétiens parmi les présidents, les PDG, les professeurs attitrés ? La logique de Dieu est une logique folle. C'est fou. C'est fou. Le Dieu de la Bible aime faire des choses folles, bizarres, surprenantes, pas ce qu'on attend. Donner à une femme peut-être de 15 ans, inconnue, dans un coin obscur d'une petite province romaine, le privilège de porter Dieu dans son ventre. Prendre quelques pêcheurs dans les deux sens, un collecteur d'impôts, et faire d'eux les responsables de ce qui deviendra la plus grosse entreprise de l'histoire. Utiliser l'exécution d'un rabbin itinérant pour sauver le monde et utiliser un livre ancien, difficile à comprendre et souvent critiqué, pour transformer des millions de vies. Et en passant, changer le monde même. Choisir pour l'adoption dans sa famille éternelle les Corinthiens parmi les moins impressionnants. Ou même les Parisiens parmi les moins impressionnants. Ça vous gêne que je vous parle ainsi ? J'étais à un congrès pour étudiants en théologie il y a quelques années, et on était principalement des futurs pasteurs, des jeunes qui étaient en formation et qui étaient convaincus qu'ils avaient beaucoup à offrir, et que d'ailleurs, sans doute, que Dieu allait nous utiliser pour changer le monde. Et l'orateur nous a regardés dans les yeux et nous dit ceci. Pensez-vous être la crème de la crème, l'élite de la nation ? Détrompez-vous. J'avais l'impression, ce jour-là, de prendre une claque. C'était physique pour moi. Et j'ai réalisé à quel point, en fait, je pensais que c'était parce que je suis quelqu'un d'impressionnant, que Dieu voulait un serviteur comme ça pour, à cause de mes qualités, etc. Mais Dieu se plaît à choisir les petits, les bras cassés, les faibles de ce monde. C'est fou. C'est par la faiblesse que sa perfection et sa puissance se manifestent. Il met ses trésors dans des vases de terre, les choses folles de ce monde. Voilà ce que Dieu aime utiliser. Que cela soit une libération pour chacun de nous. C'est fou. En lui, on a tout. Verset 28. Dieu a choisi des choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est grâce à lui, grâce à Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur, afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Le verset 30, si je puis traduire un tout petit peu plus littéralement, lui qui est devenu sagesse pour nous de la part de Dieu, justice et sainteté et rédemption ou libération, afin que, comme il est écrit, etc. Verset 30 dit, c'est grâce à lui. Donc c'est la première chose que j'aimerais noter, c'est que si ce soir vous croyez en Jésus-Christ, eh bien c'est grâce à Dieu. C'est grâce à lui. C'est son œuvre, c'est lui qui choisit et qui sauve des gens perdus, qui s'égaraient, des brebis qui s'éloignaient du bon chemin. Vous savez, la meilleure chose, alors voilà, nous à l'Église, on va dire la meilleure chose qu'une personne peut faire, c'est de se confier à Christ. Il n'y a pas mieux, en fait, sur terre. Se donner à Jésus, c'est le summum des belles choses qu'un être humain peut faire. Eh bien, c'est Dieu qui le fait. C'est lui qui est l'ultime responsable. Nul ne peut faire le fier. C'est l'œuvre de Dieu, pas simplement donc de faire en sorte que des gens se retrouvent en Christ, accrochés à lui, unis à lui, mais que en lui, ils reçoivent sagesse, puissance, qu'ils découvrent que c'est quelqu'un d'autre finalement, Jésus, qui est notre sagesse, notre sécurité, notre sainteté. Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est la sagesse de ses disciples, notre sagesse si nous croyons en lui? Eh bien, une option, c'est que ça fait référence à sa vie parfaite, le fait qu'il ait vécu la vie que nous devrions vivre, le fait qu'il est mort à notre place, il est devenu sagesse pour nous en étant parfaitement sage, en vivant exactement ce qu'il nous fallait. Ça peut aussi faire référence à la sagesse que nous avons reçue lorsque nous acceptons Christ. Lorsque nous recevons Christ en tant que roi, eh bien, il devient notre sagesse, il devient cette richesse intérieure dont nous avons besoin. C'est peut-être même les deux. Sagesse, il est aussi justice, nous dit le texte, sainteté et libération. Il est tout. En lui, on a tout. Tout ce dont nous avons besoin devant Dieu, tout ce dont nous avons besoin pour toujours, sagesse pour bien vivre, justice et sainteté pour être ami de Dieu et libération pour ne plus être, plus être soumis aux conséquences de nos fautes, mais d'être profondément, éternellement libre et de recevoir une liberté qui est à vivre tous les jours. Nous verrons dans quelques instants de quoi je parle. La justice, c'est un mot qui nous parle du pardon de Dieu. Être justifié, ça veut dire avoir tout ce qui est mal enlevé, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est négatif, tout ce qui sont mes fautes, mes injustices, ma culpabilité, tout ça part parce que j'ai reçu une justice. Donc c'est un peu enlever ce qui est mauvais. La sainteté, c'est peut-être le volet positif. C'est recevoir la bonté morale, la pureté, la perfection morale de Dieu. Si vous appartenez à Christ, il est votre justice et votre sainteté. Il est votre perfection morale dans tous les sens. Et peut-être c'est une belle richesse quand on médite cette semaine passée et on se dit, j'aurais besoin d'une justice extérieure, j'aurais besoin d'un pardon par rapport à des choses que j'ai faites cette semaine. À l'Église des Ternes, nous avons le privilège d'avoir une petite Amalia qui est née il y a quelques mois. Et c'est toujours un plaisir de voir un petit bébé à l'église. Et ses deux parents qui prennent soin d'elle, donc qui la nourrissent, qui lui donnent des vêtements, qui lui met dans son lit, qui change ses couches, qui lui fait le bain, qui donne des câlins. C'est ça la vie d'un nouveau-né. Hein. Donc voilà, tout est fait pour elle. Nous ne sommes pas des nouveaux-nés, vous n'êtes pas nouveaux-nés là, donc c'est nous qui sommes autonomes, n'est-ce pas? Adultes responsables, nous chargeons de nos bains, de nos bains, hein, d'accord, la douche, ça va aussi, mais voilà, de nos repas, tout ça, n'est-ce pas? Donc, nous ne sommes pas comme des nouveau-nés. Eh bien, la Bible dit, détrompons-nous. Nous sommes entre les mains de Jésus comme des nouveau-nés. C'est lui qui fait tout, en fait. C'est lui qui nous donne tout ce qu'il nous faut. Ce n'est pas notre beauté, notre bonté, notre performance, nos accomplissements qui font qu'on est juste aux yeux de Dieu. Mais lui, il nous le donne. Il est sagesse, justice, sainteté, libération. Tout ça est donné en Christ. Et l'apôtre Paul, en écrivant cela, il souhaite que ces Corinthiens, ils l'intègrent. Ils absorbent ces vérités. Ils arrivent à recevoir cela et être convaincus pour que cela puisse les libérer profondément. En lui, on a tout. Depuis 2000 ans maintenant, des centaines de millions de personnes ont connu cette expérience, en fait, de découvrir qu'un homme qui a vécu il y a longtemps est en fait tout ce dont ils ont besoin. Il y a quelques années, j'ai lu un témoignage qui m'a touché. Je crois que c'était un Rwandais, mais je me trompe, c'était il y a longtemps, c'est de mémoire. Mais c'est un homme, en tout cas, qui était dans une situation difficile. Il y avait des massacres, il y avait une violence. Il a eu à fuir de chez lui. Il n'avait rien, c'est-à-dire il avait sa chemise, il avait un bol. Il avait réussi à choper un bol en quittant la maison, je ne sais pas. Bon, voilà, c'est peut-être pratique, un bol. Et vraiment, c'est tout ce qu'il avait. Sa chemise, les vêtements sur lesquels il portait, un bol pour manger. Matériellement, il n'avait rien d'autre. Mais en arrivant dans un camp pour réfugiés, il a dit à quelqu'un dans ce camp, « Je n'avais pas compris que Jésus était la seule chose dont j'avais besoin, jusqu'au moment où Jésus était la seule chose que je possédais. » Voilà à quoi mène une connaissance personnelle de Jésus comme justice, sainteté, libérateur, sagesse, comme tout. Aujourd'hui, dans la réalité de nos vies de tous les jours, nous connaissons des choses, nous connaissons des personnes, et il y a des types de connaissances différentes. Donc, un écrivain récent parle de trois façons de connaître des choses. Il y a la façon conceptuelle, le relationnel concret et l'intuition. Donc, conceptuel, ça veut dire une analyse logique de données reçues. 2 plus 2 fait 4. Paris, c'est la capitale de la France. Connaissance conceptuelle. On a tous des connaissances conceptuelles. Deuxième catégorie, relationnelle. Lorsqu'on pratique une relation, vous connaissez peut-être vos parents, des amis, il y a des connaissances qui ne sont pas juste factuelles, mais qui dépendent en fait d'une relation entre deux personnes ou même plusieurs personnes dans un groupe. Donc il y a une connaissance relationnelle qui se distingue de cette connaissance conceptuelle. Et troisièmement, il y a l'intuition, l'expérience, l'inspiration, des choses un peu plus difficiles à mettre le doigt dessus, mais c'est une autre forme de connaissance. Pour une relation complexe, par exemple un couple marié, un homme et une femme qui s'aiment, ces trois façons de se connaître entrent en jeu. Eh bien, avec Jésus-Christ, il faut aussi les trois. Il y a des réalités historiques. Jésus est venu sur terre, il a enseigné, il est mort, il est ressuscité. Donc, il nous faut cette connaissance conceptuelle-là, mais il faut aussi le relationnel. Parler à Jésus dans la prière, écouter Jésus dans la Bible, et par son Église, vivre en relation avec lui. Et puis, il y a l'intuitif, qui vient de l'expérience et l'inspiration, qui vient de l'Esprit de Jésus. Blaise Pascal a dit quelque chose de semblable il y a 450 ans, et je vais le citer maintenant, Blaise Pascal. Il y a trois moyens de croire. Super, merci. La raison, la coutume, l'inspiration. La religion chrétienne qui seule a la raison n'admet point pour ses vrais enfants ceux qui croient sans inspiration. Ce n'est pas qu'elle exclut la raison et la coutume, au contraire. Mais il faut ouvrir son esprit aux preuves, s'y confirmer par la coutume, mais s'offrir par les humiliations aux inspirations qui seules peuvent faire le vrai et salutaire effet, ne pas évacuer la croix de Christ. Pensée 808. Ne pas évacuer la croix de Christ. Passons, merci. Il y a dans la foi chrétienne une réalité historique, la raison, une réalité relationnelle ou humaine, qu'on peut parler de coutume, qui parle de pratique, et puis un aspect intuitif, expérientiel, qui demande une humilité devant Dieu, un accueil simple et humble. La vraie foi n'est pas sans preuve historique, mais elle va au-delà des preuves. Il faut à un moment ou un autre dire à Jésus, « Je te fais confiance et je me confie à toi, même si je ne sais pas ce qui va se passer demain. » Cela dépasse le purement raisonnable, même s'il y a des arguments rationnels. Mais lorsque on fait une démarche comme cela, où on cherche à connaître Jésus, pas simplement intellectuellement, mais aussi dans la réalité de mon expérience jour après jour, eh bien, il y a une réalité à vivre là, une amitié, une intimité, une richesse profonde qui dépasse ce qu'on peut connaître parmi les hommes, entre humains. Peut-être vous savez des choses sur Jésus, peut-être vous avez une connaissance de raison et même de coutume, mais pas expérientielle et intime. Je vous invite à en parler avec Jésus. Vous pouvez, dès maintenant, vous pouvez lui dire dans votre cœur, « Jésus, en fait, je veux te connaître intimement, pas simplement par ma raison ou de manière externe par une pratique religieuse. Je veux te connaître jour après jour. » Depuis 2 millénaires, des millions de chrétiens ont découvert que Jésus est tout. Pas simplement en théorie, mais en pratique. Il est notre passion incontournable, notre espérance et notre réconfort. Il est notre sublime obsession. Au XVIe siècle, Jean Calvin avait une grande passion pour Jésus-Christ. Ce qui est intéressant avec Calvin, c'est qu'il était opposé aux mauvaises doctrines qu'il a vécues, qu'il a connues dans l'Église catholique, mais il n'était pas opposé à des théologiens catholiques qui parlaient de la vérité telle qu'il l'a connue lui aussi. Et donc, il cite dans l'institution chrétienne, assez régulièrement, des théologiens tels Bernard de Clairvaux. Alors, vous connaissez tous Bernard de Clairvaux, n'est-ce pas? Le plus grand théologien bourguignon de l'histoire. Hein. Il y a des bourguignons dans la salle? Non, c'est pas grave. Il est né à côté de Dijon. Il est mort à Clairvaux, pardon, donc Bernard de Clairvaux, en 1153, il avait 62 ans. Et pendant sa vie, il a prêché, notamment sur le Cantique des Cantiques. Et voici une citation de Bernard de Clairvaux, citée par Calvin. Bernard de Clairvaux, « C'est que le nom de Jésus n'est pas seulement clarté, je pense qu'on pourrait dire lumière en français moderne, mais aussi nourriture, pareillement huile et confiture, sans laquelle toute nourriture est sèche, que c'est le sel pour donner goût et saveur à toute doctrine qui autrement serait fade. Bref, que c'est miel en la bouche, mélodie aux oreilles, liesse au cœur, médecine à l'âme. Et que tout ce qu'on peut disputer, c'est-à-dire des idées qu'on pourrait discuter, n'est que fadaise si ce nom n'y résonne. Jésus est pour nous sagesse, justice, sainteté, libération. C'était la conviction de Bernard de Clairvaux en 1153. C'est notre conviction en 2016. Alors, conclusion, mettre sa fierté en lui. Comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Si Jésus-Christ est votre sagesse, votre justice, votre sainteté, votre libérateur, alors vous pouvez être fier de lui. Vous avez reçu une sagesse, une justice, une sainteté, une libération qui ne sont pas inhérentes, qui n'étaient pas la vôtre de par votre naissance ou autre chose. Dans les magazines et les livres de ce monde, on voit cette sagesse qu'il faut trouver le bonheur en toi. Trouve le bonheur en toi. La solution est dans ton cœur. Il faut chercher à l'intérieur de soi. Chers amis, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Mais en lui, on a tout. Notre fierté, notre obsession, notre sagesse, notre justice, notre pureté morale, notre liberté, c'est lui. Et donc, c'est assuré. Il y a une sécurité là-dedans parce que ça ne dépend pas de nos forces, de nos réussites ou de nos échecs. Il y a une sécurité parfaite qu'on peut trouver si Jésus-Christ est notre sagesse. Il y a d'autres options. Le monde nous propose plein d'autres options. Je prends une option qui est courante. La sécurité, c'est l'argent. Voilà. Si j'ai beaucoup d'argent, je suis bien. Si j'en ai peu, je ne suis pas bien. Voilà. Donc, mon Dieu, c'est l'argent. Et ça veut dire que pour réussir, il faut en avoir beaucoup. Bien, il y a beaucoup de gens qui... Oui, il y a des millions de personnes qui réussissent par rapport à l'argent, qui en reçoivent beaucoup et qui, en fait, découvrent que ce n'est pas justice ni libération. Et ils se posent des questions. Certains sont profondément déçus. Donc si vous réussissez, attention, car l'argent n'est pas capable d'entrer dans votre cœur, parce qu'il est mort, ce n'est pas vivant. Par contre, si vous échouez dans votre course après l'argent, si vous visez, voilà, je veux être millionnaire, vous n'y arrivez pas, l'argent ne peut pas vous pardonner non plus. Une fois de plus, parce que l'argent est mort. Ce n'est pas un Dieu vivant. C'est un Dieu sans vie. Il ne peut ni vous combler, si entre guillemets vous réussissez, ni vous pardonner si vous êtes en échec. Mais si votre Dieu s'appelle Jésus-Christ, sachez qu'en lui, vous aurez le seul Dieu capable de vous combler si vous vous remettez à lui. Et d'ailleurs, ça c'est la définition de la réussite chrétienne. C'est pas de devenir millionnaire ou d'être pasteur d'une méga church ou, je sais pas, convertir tous vos amis. La définition de la réussite, c'est de s'accrocher à Jésus et de continuer à vous accrocher à Jésus, à dépendre de lui, à vous remettre entre ses mains jour après jour. Et si vous faites ça, si vous réalisez que vous êtes comme un nouveau-né qui dépend seconde après seconde, il comblera votre cœur. Mais peut-être qu'il y aura des échecs, j'irai même sûrement. Il y aura des moments où il n'est pas votre satisfaction, votre sagesse, votre justice, vous courez après d'autres choses, bêtement, comme moi je le fais parfois. Et il y a un moment de réalisation. En fait, là, j'étais en train de courir après un faux Dieu. Sachez que Jésus est aussi le seul Dieu capable de vous pardonner. Parce que c'est un Dieu vivant. Il peut vous combler et vous pardonner en cas d'échec. Alors, comment faire cette semaine pour mettre votre fierté en lui? Lisez 1 Corinthiens chapitre 1, versets 26 à 31 et demandez à Jésus de vous faire du bien cette semaine. Relisez ce texte, méditez cela. Réfléchissez deuxièmement à votre vie. Dans quel domaine de ma vie suis-je en train de mettre ma fierté en moi, mes accomplissements, mes forces? En quoi dans ces domaines je pourrais plus vivre la liberté que Jésus m'a acquis? La liberté de celui qui est tellement fier de Jésus qu'il n'est pas gêné par le regard des autres sur lui. Peut-être cette semaine vous aurez un sujet de conflit, un désaccord avec un collègue. Qu'est-ce qui va vous permettre d'agir avec générosité alors que le collègue ne le mérite pas? D'être convaincu que vous avez déjà tout reçu. Vous savez, souvent, c'est difficile d'être généreux parce qu'on dit, si je suis généreux, je ne serai pas le premier, je serai au service de l'autre. Si je suis généreux, ça veut dire que je suis rien parce que je donne et lui, il reçoit. Mais si je suis fier en Jésus, je peux refléter la folie de Dieu, celui qui réduit à rien les choses qui sont en faisant quelque chose de rien. Si vous savez que Dieu a fait quelque chose de vous en Jésus-Christ, qui vous a donné sagesse, justice, sainteté et libération, il y a une liberté devant ce que nous font les hommes. Il y a une liberté devant les moments difficiles parce que j'ai plus besoin de me prouver, de montrer aux autres que je suis quelqu'un. Parce que Jésus m'a déjà convaincu qu'en lui et avec lui, je suis quelqu'un. Je suis même sage, juste, saint et libre. Celui qui sait qu'il est sage, juste, saint et libre, déjà, c'est fait, c'est donné, c'est accompli. Il peut être grand, magnanime et généreux. Vous savez, en France, il y a le concept historique de noblesse oblige. Ceux qui ont une grande famille, un grand château, une grande fortune, ils doivent être généreux. C'est normal, c'est la moindre des choses. Ils ont beaucoup reçu. Ils doivent s'abaisser et servir les autres. C'est la moindre des choses. Ils ne doivent pas s'en vanter. Ils ont tout reçu. Noblesse oblige. Eh bien, contrairement à ce que pensent parfois nos cœurs tortueux, servir humblement, donner avec générosité, ce n'est pas m'abaisser, mais c'est m'élever. Et si ma fierté est en Jésus, s'il est tout, et j'ai tout reçu en lui, je suis vraiment libre. Et je peux le mettre en pratique dans mon travail, dans ma famille. Exercer une générosité qui ne dépend pas des mérites de celui qui est en face de moi, parce que j'ai tout en Jésus, j'ai cette liberté de servir, de donner, de me soumettre même à des choses difficiles. C'est fou. En lui, on a tout. Prions ensemble. Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, notre sainteté, notre libérateur, afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Seigneur Jésus, enfouis ces vérités dans nos cœurs. Convainque-nous que tu choisis des choses basses, des choses qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont. Que tu as acquis pour nous une sagesse, une justice, une sainteté, une libération parfaite. Et que nous sommes donc libres d'être fiers de lui. Et étant fiers de lui, nous pouvons être généreux avec les autres. Seigneur, notre prière c'est que l'Évangile puisse transformer nos cœurs cette semaine, renouveler notre intelligence, et que cette même Évangile puisse toucher d'autres, des voisins, des collègues, des amis, des membres de notre famille, afin qu'un plus grand nombre puisse découvrir en Jésus la sagesse, la justice, la sainteté et la libération de Dieu. C'est notre prière en Jésus-Christ. Amen.